Faisons une petite expérience mentale pour démarrer.
D'accord, je suis prête, allez-y.
Imaginez qu'on confie la rédaction d'un rapport ultra important à un assistant de recherche, un type vraiment super éloquent, très charismatique et surtout très sûr de lui.
Le genre de personne qui présente bien, quoi.
Ouais, voilà, exactement. Et du coup, cet assistant rend un travail impeccable. La mise en page est parfaite, le ton est académique, c'est bluffant.
Jusque-là, tout va bien.
Sauf que, en vérifiant ses sources, on découvre que plus de la moitié des livres et des articles qu'il cite n'existent absolument pas.
Ah oui, la catastrophe.
Grave, ils ont été inventés de toutes pièces, avec de faux auteurs, de faux titres. Dans le monde réel, cet assistant serait viré sur le champ pour faute grave, non?
Ah, c'est clair, c'est la porte directe. L'histoire de la technologie, nous sommes face à des machines qui sont capables d'imiter la compétence avec un niveau de perfection troublant.
Mais qui n'ont aucune idée de ce qu'est la réalité.
C'est ça. Elles souffrent d'une déconnexion totale avec la notion même de vérité factuelle. L'impact sur le monde de la recherche ou même de l'entreprise est colossal.
Et c'est précisément le cœur de notre exploration d'aujourd'hui. L'objectif, c'est de traverser un peu ce brouillard, de décortiquer cette mécanique de l'illusion.
Pour comprendre comment s'en protéger.
Exactement. Protéger nos recherches face à ce qu'on appelle souvent, d'ailleurs à tort, les hallucinations de l'IA.
Oui, le terme est un peu trompeur, on y reviendra.
Et pour nous guider, notre fil conducteur aujourd'hui, c'est un document vraiment très pragmatique. C'est le guide du jeune chercheur à l'ère de l'intelligence artificielle générative.
Un excellent texte rédigé par Abdou Bekeso.
Oui, et c'est pensé notamment pour le contexte du CAMES, donc en Afrique francophone, mais honnêtement, les leçons sont universelles.
Totalement universel. Et ce qui rend ce guide particulièrement intéressant, c'est sa posture d'équilibre. En fait, il n'y a aucun rejet dogmatique de la machine.
Ce n'est pas un pamphlet anti-technologie, quoi.
Pas du tout. L'auteur reconnaît la puissance de l'outil, mais il pose une règle vitale dès le départ. L'IA n'augmente que l'esprit qui est déjà doté d'un sens critique.
Donc si on n'est pas préparé,
Elle agit comme un amplificateur de faiblesse, tout simplement. Elle fragilise les autres.
la mission de notre analyse, c'est donc d'équiper tous ceux qui nous écoutent d'une véritable culture informationnelle augmentée. Il faut comprendre pourquoi une IA invente des sources.
Et surtout, comment repérer ces mirages?
C'est ça. Mais avant de parler des outils de vérification, je pense qu'il faut vraiment soulever le capot de la machine. Qu'est-ce qui se passe réellement quand ces modèles génèrent du texte?
C'est la base, oui. Pour comprendre l'erreur de l'IA, il faut d'abord comprendre sa nature. Elle produit du langage, pas de la connaissance.
Et j'ai l'impression que la confusion, elle vient un peu de notre propre anthropomorphisme, non? On imagine l'IA comme un immense cerveau avec une énorme bibliothèque à l'intérieur.
C'est le malentendu originel. Une IA générative comme les LLM qu'on utilise tous les jours, ça fonctionne pas du tout comme un moteur de recherche.
Elle va pas piocher une info dans une base de données.
Exactement. En 2021, la chercheuse Emily Bender et ses collègues ont sorti un article majeur où ils ont forgé le concept de perroquet stochastique.
Perroquet stochastique. Je crois que ça avait pas mal fait grincer des dents dans la Silicon Valley à l'époque.
Ah ça, c'est sûr, mais c'est d'une précision redoutable. Un modèle de langage assemble des suites de mots uniquement en fonction de probabilités statistiques. Il n'y a aucune compréhension du sens réel derrière.
Le terme stochastique, ça renvoie à l'aléatoire, aux probabilités. Si j'essaie de vulgariser, c'est un peu comme le clavier prédictif de notre smartphone, mais sous stéroïde, non?
C'est une excellente image.
Le téléphone, il comprend pas ce qu'on veut dire à notre mère. Il a juste calculé que, statistiquement, après « j'arrive », les mots dans 5 minutes sont super probables.
Le mécanisme fondamental, en fait, c'est exactement celui-là, même si l'échelle est astronomique.
Oui, on parle de milliards de paramètres.
Voilà. Quand il génère une phrase, le modèle prédit le mot suivant, en fonction de tout ce qu'il a ingurgité. Il imite la structure du langage humain de façon magistrale, d'où le perroquet.
Mais sans savoir ce qu'il dit.
C'est ça. Il n'a aucune modélisation du monde réel. Le concept de vrai ou de faux, pour lui, ça n'existe pas.
C'est fou quand on y pense. Ça me rappelle une distinction fondamentale posée par Jean Mériat, un des fondateurs des sciences de l'information.
Oui, une distinction cruciale entre le traitement du langage et le traitement de l'information.
C'est ça. Mériat disait que l'information, ça suppose une validation et une destination. C'est fait pour être communiqué à un humain avec une garantie de vérité.
Alors que l'IA fait uniquement du traitement de langage. Elle agence des signes.
Et du coup, j'ai une petite analogie pour ça. C'est un peu comme un acteur brillant qui joue le rôle d'un scientifique dans un film.
Ah, j'aime beaucoup cette image.
Il a le bon vocabulaire, l'intonation parfaite, la blouse blanche impeccable. À l'écran, il a l'air d'un génie de la médecine.
L'illusion est parfaite.
Mais si on lui demande de réaliser la véritable opération chirurgicale, c'est la catastrophe absolue. Il y a du sang partout.
Ce qui est fascinant ici, c'est que cette fluidité du modèle crée une illusion de savoir d'une puissance totalement inédite.
On se laisse tout savoir.
Bien sûr, parce qu'on a ce réflexe humain de lier la forme au fond. La perfection de la forme masque l'absence totale de garantie sur le fond. Quiconque a déjà utilisé une IA pour résumer un sujet complexe s'est sûrement laissé séduire par ce ton faussement neutre et assuré.
C'est là que ça devient vraiment fascinant. Parce que puisque l'IA devine la forme sans comprendre le fond, qu'est-ce qui se passe quand on lui demande un truc très précis, comme de citer ses sources?
C'est là que le chirurgien de cinéma prend son scalpel et que les dégâts commencent.
Et les chiffres font peur. Il y a une étude Walters et Wilder de 2023, publiée dans Scientific Reports, qui a mesuré ça. Ils ont demandé à des modèles de générer des références.
Et les résultats sont effarants?
Ouais. Sur 636 références générées, 55% de celles de GPT-3.5 étaient purement et simplement fabriquées.
Plus d'une sur deux.
C'est dingue. Et pour GPT-4, on était à 18% d'invention totale.
C'est pour ça que la citation du psychiatre Robin Hemsley dans notre source est si pertinente. Il dit qu'il faut vraiment arrêter de parler d'hallucination.
Oui, parce que ça excuse un peu la machine, non? On dirait qu'elle a fait un petit rêve fiévreux.
Exactement. Ça lui donne un côté humain, presque poétique. Hemsley plaide pour qu'on parle de fabrication et de falsification.
Le terme est beaucoup plus lourd de conséquences.
Surtout dans un contexte académique ou journalistique. En fait, le piège ici, c'est la référence trop parfaite.
Qu'est-ce que vous entendez par trop parfaite?
Le modèle a appris à quoi ressemble une bibliographie. Il sait qu'il faut un nom crédible, une année cohérente, le nom d'une revue en italique. Du coup, il génère une chimère.
Une chimère académique.
Voilà. Et souvent, elle a l'air plus propre qu'une vraie source. Une vraie source, il y a souvent des aspérités, des titres un peu bizarres. La machine, elle, comble le vide avec ce qui sonne le mieux. Elle ignore qu'elle ignore.
Mais là, je me fais l'avocat du diable une seconde. Avec les versions plus récentes, avec l'accès à Internet en direct, est-ce que ce problème technique ne va pas tout simplement disparaître?
C'est une objection qu'on entend tout le temps, mais non. Parce que ce n'est pas un défaut de jeunesse, c'est un problème structurel.
C'est dans l'ADN même du modèle.
Exactement. L'IA est programmée pour être plausible, pas pour dire le vrai. Même connectée à Internet, son moteur principal reste probabiliste. La règle d'or du guide est donc absolue.
On ne demande jamais ses sources à une IA générative.
Jamais. On peut lui demander d'expliquer un concept, de reformuler, mais on ne lui délègue pas la recherche de références primaires.
D'accord. Décortiquons un peu tout ça. Face à des mirages aussi parfaits, comment on s'outille? Parce que la méthode de vérification doit être implacable.
Elle doit l'être. L'antidote numéro 1, c'est le DOI, le Digital Object Identifier.
C'est la carte d'identité de l'article scientifique, c'est ça?
Exactement. C'est une chaîne de caractères unique attribuée aux publications sérieuses. L'IA sait à quoi ressemble un DOI, donc elle peut en inventer un.
Ah, donc la présence d'un DOI ne prouve rien en soi?
Non. Il faut qu'il soit résolvable. Il faut le prendre, l'ajouter après l'adresse web https://doi.org et voir où ça mène.
C'est un peu comme vérifier un numéro de téléphone sur une carte de visite hyper luxueuse, quoi.
C'est une très bonne analogie.
La carte peut être magnifique, avec des lettres dorées, et si vous appelez et que ça sonne dans le vide, l'entreprise n'existe pas, peu importe la beauté du logo.
Voilà, si le DOI ne mène nulle part ou aboutit sur une erreur, la source est inventée.
Mais le guide de SOW parle aussi d'un autre problème. Parfois, l'IA trouve de vrais articles avec de vrais DOI, mais qui sont en fait des fraudes.
Oui, le problème de la prolifération des revues prédatrices et des usines à articles, ce qu'on appelle les paper mills.
Des faux articles produits en masse, parfois même par d'autres IA.
C'est un fléau. C'est là que le réflexe DOAJ devient indispensable. Le Directory of Open Access Journals.
C'est une sorte de liste blanche, c'est ça, hein?
Exactement. Ça permet de s'assurer de la légitimité d'une revue en libre accès. Si la revue n'y figure pas et n'est pas dans les grandes bases de données reconnues, il faut s'en méfier.
Et au-delà des outils techniques, il y a aussi une méthode de lecture à adopter. Le guide parle de triangulation.
La triangulation et la lecture latérale, oui.
C'est-à-dire qu'il faut recouper l'information avec au moins deux sources indépendantes, non?
Tout à fait. Et surtout, sortir du document. Il faut vérifier ce que les autres disent de l'auteur, de l'institution, de la revue. Ne pas rester hypnotisé par le texte généré par l'IA.
Cela soulève une question cruciale quand même. Quelle est notre part de responsabilité là-dedans?
C'est la question centrale. En fait, intégrer une référence fabriquée, même de bonne foi parce qu'on a fait confiance à la machine, ça reste une faute grave de négligence.
Une référence d'IA est présumée fausse jusqu'à preuve du contraire.
Hic et épistémologique.
D'ailleurs, le guide évoque Gaston Bachelard à ce sujet.
Oui, les fameux obstacles épistémologiques. Bachelard expliquait que ce qui nous empêche d'accéder à la connaissance, ce sont souvent nos propres certitudes, nos préjugés.
Et l'IA est parfaite pour flatter ça.
Elle nourrit le biais de confirmation à un niveau industriel. Elle va toujours avoir tendance à vous dire ce que vous voulez entendre.
Et puis, il y a la paresse aussi, non? On fait confiance à la machine parce que ça va plus vite.
Le biais d'automatisation, voilà. Ça mène tout droit à ce qu'on appelle la désappropriation des compétences, ou de-skilling.
C'est-à-dire qu'on perd notre capacité à chercher et à réfléchir par nous-mêmes. On sous-traite notre cerveau.
Et c'est dramatique pour un chercheur ou un étudiant, parce que le savoir, il se forge dans l'effort, dans la confrontation avec la difficulté. Si la machine prémâche tout, la pensée s'atrophie.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie, au fond, vis-à-vis de la création même du savoir même ? Il y a la question de l'éthique et de la paternité.
Si l'on relie cela à la vision d'ensemble, la science et la connaissance reposent sur une communauté de personnes responsables.
Responsable, c'est le mot-clé.
Absolument. D'ailleurs, le consensus académique, que ce soit l'ICMJE, la revue Nature ou Science, est clair. Une IA ne peut en aucun cas être créditée comme auteur.
Même si elle a rédigé 80% du texte.
Même dans ce cas. L'IA peut assister pour la forme, corriger des fautes, traduire, mais elle ne peut jamais signer ni produire le fond. La responsabilité reste 100% humaine.
Parce que la machine produit des phrases, mais elle ne peut pas rendre des comptes.
Voilà, elle ne peut pas répondre aux questions lors d'une soutenance, elle ne peut pas assumer les conséquences juridiques d'une erreur.
Donc, si l'IA rédige votre pensée, vous perdez votre voix.
Et votre signature intellectuelle.
C'est le grand risque. Et c'est pour ça que la vigilance est non négociable.
En résumé, l'intelligence artificielle est un assistant de mise en forme exceptionnel. Vraiment incroyable. Mais c'est un chercheur de faits absolument catastrophique.
Et dangereux si on n'est pas vigilant.
Et cette culture informationnelle augmentée qu'on essaye de développer, c'est d'abord l'art de douter et de vérifier inlassablement à la source primaire.
Avec les bons réflexes, le DOI, le DOAJ, la triangulation. Écoutez, merci beaucoup pour cette analyse hyper éclairante. Il y a quand même une dernière pensée assez provocatrice qui me vient à l'esprit pour prolonger un peu la réflexion.
Je vous écoute.
On sait que les nouveaux modèles d'IA s'entraînent de plus en plus sur les données d'Internet, n'est-ce pas?
Oui, ils aspirent tout ce qui s'y trouve.
Et on sait aussi qu'Internet se remplit chaque jour de millions, voire de milliards d'articles générés par l'IA.
Des articles qui contiennent souvent, comme on l'a vu, de fausses références.
Et de faux concepts. Du coup, ne risque-t-on pas un empoisonnement total des données à moyen terme?
Ce que certains appellent l'effondrement du modèle, oui.
C'est ça. Est-ce que dans quelques années, face à cet océan de mirages de synthétique, la seule manière de prouver qu'une information est vraiment vraie, ce ne sera pas de retourner consulter des archives papier dans le sous-sol poussiéreux d'une bibliothèque physique?
C'est une perspective vertigineuse. Le retour aux sources analogiques comme garantie ultime de la vérité.
C'est une question qu'on laisse à tout le monde pour méditer. Merci de nous avoir rejoints pour cette exploration approfondie. Continuez de cultiver votre sens critique. Doutez de ce qui est trop parfait et surtout, vérifiez toujours vos DOI.
Toujours.
À très vite pour une nouvelle plongée dans nos sources.